Nous approchons de toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Nous venons de chanter, Seigneur, tout ton amour. Alors, Seigneur, tu veux inonder nos cœurs, comme c'est chanté, tu veux inonder nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, nous t'apporter la louange qui t'est due. Seigneur, que nos cœurs soient élevés vers toi pour que nous puissions, Seigneur, ne rien penser à d'autre que ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions de nous assister, nous en avons tellement besoin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Pour le repas du Seigneur, on prendra un passage que nous connaissons bien dans la première aux Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens 11, les versets 26 à 29. 1 Corinthiens 11, 26 à 29. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Une fois encore, comme chaque semaine, nous allons prendre le repas du Seigneur en souvenir de lui. « Faites ceci en mémoire de moi », nous dit-il par deux fois dans les versets précédents. Alors, « Faites ceci en mémoire de moi », non seulement en mémoire de ce qu'il a fait pour moi, du traitement qu'on lui a infligé, lui, le seul juste, et cela sans dire un seul mot. Non seulement en mémoire de son sacrifice sur la croix, mais en mémoire de lui, de tout ce qu'il est devenu pour chacun d'entre nous, le chemin, la vérité, la vie, de toute sa personne, de ce qu'il nous dit, il a permis que nous ayons tout pleinement en lui. Voilà ce qu'il nous demande de nous rappeler. Et en prenant le repas du Seigneur, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, c'est le verset 23. Ce n'est pas seulement en souvenir de ce qu'il a fait. Nous annonçons sa mort, son sacrifice, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Ça m'a frappé, ces termes que nous rappelons presque chaque semaine. J'annonce sa mort chaque semaine. Ça veut dire que j'annonce aussi la mienne. Une autre traduction dit « Nous proclamons sa mort, nous proclamons la nôtre ». Nous avons chanté tout à l'heure, je pense qu'on l'a tous chanté, « Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. » Ben, c'est ce que nous attestons en prenant le repas du Seigneur. Et nous nous souvenons de ce qui s'est passé au calvaire, mais en regardant devant, vers le jour où il viendra pour venir chercher les siens, pour être avec eux pour l'éternité. Comment je vois cela? Et surtout, comment je le vis avec l'espérance de le voir en me laissant façonner par lui afin de lui ressembler pour ce jour glorieux en attendant le Seigneur Jésus comme une épouse attend son époux qui va venir pour célébrer leurs noces. Ou est-ce que ça n'a pas trop d'importance pour moi? Que se passe-t-il entre le dimanche matin où je prends la scène et le dimanche suivant? Je retourne à mes propres occupations, mes propres intérêts, ma propre vie, finalement, comme tout le monde, et ainsi jusqu'au culte suivant, prouvant ainsi que je ne suis pas mort. Ou bien mon attitude témoigne que je suis dans l'attente du retour du Seigneur d'un dimanche à l'autre, jusqu'à ce qu'il revienne. Personnellement, je dois l'avouer, il n'y a pas encore réellement ce besoin brûlant de voir mon Seigneur revenir. Mais je sais qu'en vivant proche de lui, comme pour vous, ce besoin va grandir. L'attente de son retour, elle est en fait proportionnelle à l'amour que j'ai pour lui, à la connaissance que j'ai de lui. L'avant-dernier verset de la parole, dans Apocalypse 22, 20, nous dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et que répond son disciple ? Il dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Alors je vais vous raconter l'histoire d'un homme, passé devant un, je crois que c'est devant un château, Puis il y avait un grand jardin devant le château. Et puis il voit le jardinier. Alors cet homme est frappé par le zèle que ce jardinier met à prendre soin des fleurs du jardin qu'il cultive. Il ôte les mauvaises herbes, il taille, il arrose. Et cet homme va vers le jardinier et lui pose cette question. « Mais pour qui vous faites ça ? Et pourquoi ?» L'homme lui répond, « J'entretiens ce jardin pour le jour où mon maître reviendra, qu'il soit content de retrouver son jardin en très bon état. » Et l'homme lui dit, « Mais savez-vous quand il reviendra ?» « Non, je ne sais pas, » répondit le jardinier. « Mais depuis quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» Et le jardinier lui répond, « Ça fait 20 ans. » Quelle leçon que celle de ce jardinier prête à recevoir dignement son maître, une attente en étant prêt, dans le désir de le satisfaire. Et voilà ce que le Seigneur veut de moi, jusqu'à ce qu'il vienne. L'apôtre Paul a pu dire à Timothée, dans sa deuxième épître, au chapitre 4, au verset 7 et 8, je vous le lis, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Cette couronne de justice est réservée à ceux qui auront aimé son avènement. » Je me suis posé la question, est-ce que j'en fais partie ? Est-ce que cette couronne de justice a un prix pour moi ? Toutes ces questions, je dois me les poser en prenant le repas du Seigneur, afin de prendre ce repas justement dignement et de ne pas prendre un jugement contre moi-même. Nous avons rappelé qu'en prenant le repas du Seigneur, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, donc aussi la nôtre. Vous lisez le verset de Romains du chapitre 6, les versets 6 à 8. Là encore, je vous le lis. « Notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. C'est mon comportement, c'est ma façon de vivre et de montrer quels sont mes intérêts, où est mon trésor, qui vont témoigner de ma façon de prendre la scène et de démontrer si oui ou non je suis mort avant d'être ressuscité avec Christ. Nous avons lu que ce moment de partage du pain et de la coupe est un moment particulier, solennel, avec des conséquences. Il n'y a qu'à lire la suite d'un Corinthiens. Il y a des mâles, il y a des malades, il y a des morts. Et il nous est demandé, il m'est demandé, de m'examiner avant de prendre ce repas, de ne pas le faire à la légère, pour ne pas manger et boire un jugement contre moi-même. Et prendre le repas indignement, c'est prendre un repas sans discerner le corps du Seigneur. Ça veut dire quoi, discerner le corps du Seigneur ? Il nous faut considérer que physiquement, dans son corps, le Seigneur a dû supporter, et c'est ce que nous rappelons, nous l'avons déjà rappelé plusieurs fois, qu'il a supporté l'insupportable, et que je ne m'habitue pas à ça. Ça implique de voir le prix payé pour mon salut. Le Seigneur Jésus a dû mourir pour que je puisse vivre. Il a fallu qu'il meure pour ressusciter. Il a dû passer par une humiliation extrême pour être glorifié et me faire partager sa gloire. Il faut nous rappeler que toute son œuvre sur la terre n'avait qu'un but, faire la volonté du Père, c'est-à-dire sauver les perdus, les destiner à l'enfer pour les amener à lui et leur faire partager sa vie éternellement. Nous faisions chacun partie de ces destinés à l'enfer. Et maintenant, nous sommes sauvés par sa grâce. Il est ressuscité, mais il y avait les traces des clous sur ses mains et ses pieds. Il y avait encore l'empreinte de la lance sur son flanc. Il y a des cicatrices. Est-ce que je veux suivre ce chemin ? C'est ça son corps, et c'est ce que nous rappelons. Mais aussi spirituellement son corps, c'est l'Église. C'est son Église. On va prendre dans la première aux Corinthiens toujours, mais le chapitre suivant, les versets 12 à 27. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était toute ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part, c'est-à-dire toi, moi. Mets ton prénom à la place d'un membre du corps. Tu as ta place, ton rôle, qui que tu sois. Et c'est le Seigneur qui établit cela. Si ton corps est normalement fait, il faut considérer qu'il a une tête. Et dans ce corps, qui est-ce qui décide ? La tête, évidemment. Chaque membre du corps agit sous la dépendance de la tête. C'est dans ta tête que se prennent tes décisions, c'est dans ta tête que se déterminent tes actes. Et dans l'Église, dans le corps, la tête, c'est Christ. Colossiens 1, verset 18, je vous le lis. Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il n'y a pas d'équivoque possible. Les choses sont extrêmement claires. Et puis Éphésiens, chapitre 1, versets 21 à 23, on peut le lire ensemble. Éphésiens 1, 21 à 23, peut-être 20 plutôt, verset 20. Il l'a déployé, l'infinie grandeur de sa puissance, donc en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et la conséquence, dans Colossiens 3, 17, je vous le lis, « Quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc chaque membre est dépendant de Christ, chaque membre de l'Église, chacun pour sa part, du plus petit, ou qui le semble, au plus important, ou qui le semble. Seriez-vous capable de vous priver d'un membre de votre corps, même infime, et de le considérer comme inutile ? Essayez même de vous arracher un ongle. Ce n'est pas très important, un ongle. Vous verrez si cela est indolore. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. En comparaison, vous n'allez pas dire « il y a mon ongle qui a mal ». Vous allez dire « j'ai mal ». Parfois même jusqu'à l'insomnie, même un ongle incarné, ça peut vous empêcher de dormir. C'est tout mon corps qui souffre. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent en Christ, et Christ souffre aussi. Qu'est-ce qu'il a dit à Paul ? Je suis Jésus que tu persécutes. De même, si vous avez le projet d'aller quelque part, si vous allez à droite, Vous n'imaginerez pas que votre pied parte délibérément de sa propre volonté à gauche. Ça risque de poser de sérieux problèmes. Un œil qui regarde à droite et l'autre à gauche, ça nécessite une correction, une rééducation ou une intervention. En tout cas, il faut faire quelque chose. Dans l'Église de Christ, ça ne serait pas pareil? Nous avons rappelé vendredi l'importance de ces petits mots. Avec Christ, en Christ. Le corps de Christ est formé dans un but. Éphésiens 2:21, je vous le lis, en lui, en Christ, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et même dans l'édifice, le plus petit clou, si vous l'enlevez, ça peut faire chanceler l'édifice. On peut être un tout petit clou, mais avoir une importance capitale pour le Seigneur. Alors prenons conscience que chacun, pour sa part, nous avons notre rôle dans l'Église. Les Corinthiens avaient perdu cette vision du corps. Il leur est dit dans 1 Corinthiens 6, les versets 19-20, on va les prendre ensemble pour terminer. 1 Corinthiens 6, 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous allons avoir, après le repas du Seigneur, l'occasion de le glorifier, de lui dire merci. Mais devant, est-ce que c'est pas grand-chose de lui dire merci? On peut le faire par quelques mots. C'est important, il l'attend de notre part. En comparaison avec ce qu'il a fait pour nous. C'est quelque chose de merveilleux. Nous avons rappelé tout à l'heure, nous avons tout pleinement en lui. Ce cadeau extraordinaire, simplement nous est accordé en croyant en lui et en lui donnant encore notre vie pour la semaine qui vient. Alors, on va le remercier. Je vais vous rappeler ce petit poème qui était hier sur la bonne semence, qui était sur les linteaux d'une église. « Tu le vois mort, pécheur ?» C'est Dieu qui t'a fait naître, sa mort est ton ouvrage et devient ton appui. À ce trait de bonté, tu dois au moins connaître que s'il est mort pour toi, tu dois vivre pour lui. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier que ta parole, elle est simple. Il n'y a pas d'équivoque possible. Tu nous dis de te donner notre cœur. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire maintenant, en prenant ce repas d'une façon digne. Seigneur, merci de nous rappeler que chacun a sa part dans ton Église, a sa place. Seigneur, merci encore de nous le rappeler. Et pardon pour toutes les fois où je veux prendre une route que tu ne veux pas et que je te déshonore en fait. Mais Seigneur, merci encore parce que nous avons toujours la possibilité de revenir à la croix et de confier nos cœurs, de te demander pardon et de repartir sur la route nouvelle que tu as tracée pour nous. Seigneur, merci encore d'avoir donné ta vie pour chacun d'entre nous, par amour pour nous. Merci. Amen.
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est Apocalypse 2, verset 10. Alors ce matin, si vous voulez bien, on va faire connaissance avec une famille qui est donnée dans la parole pour sa fidélité, donnée comme exemple. Alors de qui est-ce qu'il peut s'agir ? Alors, je vous aide, il ne s'agit pas de la famille d'Abraham, ça aurait pu, ni de celle de Daniel ou de David, mais d'un petit groupe non plus, un petit groupe de personnes dont le nom vous est peut-être inconnu et qu'on va trouver dans le livre de Jérémie au chapitre 35. Alors, on va ouvrir nos Bibles en Jérémie 35. Et pour commencer, on lira les 11 premiers versets. Donc, Jérémie 35, versets 1 à 11. Jérémie 35, 1 à 11. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazania, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs. Au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil, je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors c'est une période particulièrement troublée, période de ce récit, instabilité, bruit de guerre. Le roi Joachim vient de succéder à son frère Joachaz, lequel n'avait régné seulement 3 mois à Jérusalem, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ce roi a été destitué donc, par le pharaon Necho, et c'est donc son frère Joachim qui est installé sur le trône de Juda. Et on trouve ce récit au chapitre 23 du deuxième livre des rois. Et malheureusement, pour lui aussi, le verdict est sans appel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. De Rois 23, verset 37. Et l'impiété de ce roi était telle qu'il nous est rapporté dans la parole qu'il a lacéré la parole de Dieu qui était présentée par le scribe. Elle l'a jeté au feu dès qu'il a entendu les 2 ou 3 premières pages de ce livre. Et on trouve ça dans Jérémie au chapitre suivant. Donc on va lire à partir du verset 2 au chapitre 36, verset 2. Cet épisode nous est rapporté. Donc Jérémie 36, verset 2 et 3. Dieu s'adresse à Jérémie et lui dit « Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda » et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. » Ça, c'était le but de Dieu. Mais alors, quelle a été la réaction du roi? Bien, on la trouve un peu plus loin dans le chapitre, au verset 24. « Lorsque j'ai eu lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. » Alors dans un tel contexte politique, spirituel, la vie était certainement difficile. Jérusalem avait été prise et reprise plusieurs fois au cours de nombreuses campagnes militaires et assujetti, ça nous est dit dans la parole, à de lourds impôts. Le pays était dévasté par les armées. Et le chapitre 24 du deuxième livre des rois nous apprend que ce Joachim, qui d'abord a été un vassal de Nebuchadnezzar, s'est ensuite révolté contre lui et a tiré sur son peuple une grande répression. Est-ce que tous ces jugements de Dieu, oui, ont conduit le peuple et en premier lieu le roi à la repentance? Eh bien, nullement. Et on a là l'illustration de ce qui est dit dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Alors, est-ce que c'est exagéré de dire que cette période durant laquelle se déroule ce récit ressemble beaucoup à la nôtre? À mon avis, non. Un monde profondément troublé par les bruits de guerre, par les conflits, l'inquiétude va grandissante, les guerres qui dressent des millions d'hommes les uns contre les autres, puis qui amènent toutes sortes de malheurs et de souffrances. Et surtout, c'est à une période où l'ennemi se déchaîne contre tout ce qui se réclame de Dieu. Il y a quelques temps, quelques semaines, dans son dernier rapport sur l'état des persécutions dans le monde, Portes Ouvertes montrait que durant cette dernière année 2025, les pays où il y a beaucoup de répression contre les chrétiens ont beaucoup, il y a beaucoup plus de pays, vous regardez la carte, plus que jamais auparavant. Et dans notre propre pays, même si la persécution n'est pas du même ordre, on peut évidemment aussi constater une grande dégradation morale, un déclin spirituel. Et durant la période où se déroule ce récit, ben, il y avait juste visiblement quelques hommes qui étaient restés fidèles. Jérémie, le prophète, Baruch, le secrétaire, et sans doute quelques autres. Mais là, Dieu nous met en exemple cette famille, la famille des Récabites. Qui sont-ils ? Eh bien, ils sont descendants de Récab, donc apparentés, un Kénien apparenté aux Madianites et de la famille de Moïse par mariage. On voit ça, vous pourrez le lire dans le livre des Juges, chapitre 1. Ils étaient nomades et, comme on a pu le lire, ils respectaient très scrupuleusement les règles de vie données par leur ancêtre. Pas de vin, pas de maison, ni de semaille, ni de plantation, dans ce qu'on a lu. Et ils sont restés fidèles à ces règles, pas pendant 10 ans ou 20 ans, mais pendant à peu près 250 ans, puisqu'entre le période de Moïse et la période de Jérémie, à peu près 250 ans. Cette façon de se comporter, toutes ces règles données par Jonadab à ses fils, à ses descendants, avait pour but de les préserver, on pourrait dire, de l'atteinte des convoitises du monde. On pourrait les transcrire comme cela. « Ne buvez pas le vin des convoitises enivrantes du monde. » Ça nous ramène à 1 Jean 2, 16. « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Ne bâtissez pas de maison, ne vous y installez pas de façon permanente. Ça nous rappelle Philippiens 3, 20. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et puis ne semez pas de semences, ne plantez point de vignes, n'en possédez point, mais marchez comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alors on peut penser que l'arrivée de ces gens, des Récabites à Jérusalem, n'est pas passée inaperçue. Même dans une ville préoccupée par l'approche de Nebuchadnezzar, la conduite de ces hommes, leur témoignage, leur façon de vivre ne pouvait pas laisser indifférents, on imagine, les habitants de Juda, Jérusalem. Même s'il y a eu moquerie, raillerie, voire méfiance devant cette famille des Récabites, eh bien, ils sont restés fidèles à leur vailleur. Et la seule question qui était importante pour eux, et puis qui le aussi pour nous, c'est que pense l'Éternel à leur sujet, peu importe ce que pensaient les hommes. Et c'est la seule question qui vaille, que pense Dieu à mon sujet. Et cette fidélité, eh bien, elle va être éprouvée de façon un petit peu surprenante. Le Jérémie, prophète, reçoit de Dieu cet ordre. Va, c'était le verset 2, à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une chambre et tu leur offriras du vin à boire. Ici, c'est donc un fidèle serviteur de l'Éternel, Jérémie, qui, on pourrait presque penser, les invite à désobéir à l'enseignement de Jonadab. On peut penser que Jérémie aussi a été perplexe en recevant cette mission de la part de Dieu. Il semble qu'il soit mandaté pour amener les Récabites à la désobéissance, en tout cas à la désobéissance au commandement que leur avait donné leur ancêtre, et ainsi renier leur premier engagement. Mais on sait que Jérémie est un homme qui connaît le Seigneur, il a l'habitude d'obéir et il laisse l'Éternel veiller sur sa parole pour l'exécuter. Il sait par expérience que ce qui va en sortir est quelque chose de positif. Mais si on se met un instant à la place de ces Récabites, on peut imaginer aussi leur surprise, leur incompréhension. Jérémie ne les a pas amenés dans une première taverne venue pour les inviter à boire. Dans un tel lieu, la tentation aurait paru grossière et ils n'auraient pas songé à désobéir. Là, ils sont conduits dans le temple de Dieu, là où Dieu se révèle. Ils sont en présence de Jérémie, donc un prophète reconnu, éprouvé. Et c'est lui qui leur donne cet ordre. Vous pouvez voir, c'est un ordre. Buvez du vin. Point d'exclamation. Pas de place pour la négociation. Et quelle va être... On peut même dire, le temps est presque favorable pour faire une entorse à la règle. À peu près, on l'a dit, à peu près 250 ans séparent l'époque de Jonadab de l'époque de Jérémie. Bah, il est temps de tourner la page, d'abandonner tous ces commandements un peu surannés, et puis d'être un peu plus moderne, n'est-ce pas ? Bah, il faut bien vivre avec son temps. Vous avez jamais entendu ça, ce genre de réflexion ? Parce que ce n'est pas complètement d'actualité. Vouloir vivre selon des standards de Dieu, révélés dans sa parole, et ce que ça ne ferait pas de temps en temps les chrétiens des illuminés. On a entendu ça. C'était le bon temps pour aller de l'avant, être plus moderne. Et Paul déjà avertissait les Galates au sujet de cet évangile différent, qui en fait n'est plus l'évangile. Et on peut prendre quelques versets dans Galates 1, on les connaît, mais c'est bon de relire la parole. Galates 1, à partir du verset 6. On peut lire de 6 à 9. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Or, quelle fut la réponse de ces gens ? Ils répondirent, verset 6, « Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. » Et ainsi, sans se laisser détourner de leur fermeté, sans que les circonstances particulières les fassent vaciller dans leurs convictions, eh ben, ils affirment simplement, mais avec la plus grande fermeté, « Nous ne boirons pas de vin, en d'autres termes, nous demeurons fidèles à notre engagement. » Et ainsi, plusieurs siècles avant que Paul ait écrit sa lettre à Timothée, ben, ils ont mis en pratique l'exhortation qu'on trouve en 2 Timothée 3,14, je peux vous lire ces versets, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Alors, on a vu la réaction de ces personnes. Maintenant, il est intéressant de lire la suite de ce récit. On va reprendre Jérémie 35 et lire la fin du chapitre, du verset 12 jusqu'au verset 19. Et là, c'est Dieu qui prend la parole pour enseigner son peuple. Alors, donc Jérémie 35, 12, « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, revenez chacun de vos mauvaises voies, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous ne m'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux. Parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Donc Dieu s'adresse maintenant aux habitants de Juda, aux habitants de Jérusalem, en les invitant à écouter ses paroles. Et le contraste est frappant entre l'obéissance fidèle de cette famille des Récabites aux prescriptions d'un homme et la désobéissance manifeste de tout un peuple aux paroles pressantes du Seigneur. Parce qu'en effet, malgré tout au long de ces années, malgré l'intervention de très nombreux prophètes qui ont enseigné, qui ont averti le peuple, ils n'ont pas voulu écouter et n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Et bien que les commandements de Jonadab n'étaient pas littéralement des commandements fondés sur la parole, ce qui est mis en évidence dans ce passage, ce que Dieu approuve, c'est la fidélité de ces hommes à garder la parole de leur père. Juda avait reçu les instructions de Dieu, des enseignements infiniment plus précieux et plus importants que les enseignements d'un homme. Pourtant, ils étaient demeurés dans la désobéissance. On peut se poser la question, pourquoi le Seigneur a voulu nous préserver ce petit récit? Peut-être parce qu'il attend que nous soyons également fidèles à ce qu'il a voulu nous transmettre à travers sa parole. Et si on prend Hébreux 13, verset 7, il nous a dit, je vous le lis, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous et imitez. » Et c'est ainsi que les Récabites ont marché dans cette vie et nous sont donnés en exemple. Dans cette famille, de père en fils et de génération après génération, cet enseignement précis avait été transmis. Et ça nous enseigne aussi qu'il est de notre responsabilité de transmettre ce qui est juste, ce qui est selon Dieu. Et Paul exhortait Timothée à cela en lui disant au chapitre 2 de la 2e Timothée, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » En premier lieu, on peut voir que c'est aussi un enseignement pour les parents qui ont cette responsabilité d'enseigner les enfants, Éphésiens 6, 4, on connaît ce verset, « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et peut-être le Seigneur nous pose la question ce matin, mais quelles sont nos préoccupations, nos cœurs, nos priorités? Est-ce qu'on montre aux enfants, pour les parents, ou à nos amis, à nos connaissances, à nos collègues, l'image de gens qui sont absorbés, accaparés par les affaires de la vie? Ou bien est-ce que nous sommes réellement, constamment, des serviteurs du Seigneur, vivant dans le siècle présent, comme dit la parole, selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Ça, c'est Timothée 2, verset 12. Donc les Récabites, ils ont simplement écouté le commandement de leur père, et c'est cette fidélité qui est mise en évidence, sur laquelle nous devons porter nos yeux. Imitons-les pour nous abstenir de ce que le vin représente, les joies du monde qui offert à la vieille nature, qui font obstacle à la marche chrétienne. Il nous est rappelé, nous ne faisons que passer sur la terre, notre cité à nous et dans les cieux. Et ils ont obéi, et le témoignage de l'Éternel honore ces hommes, c'est ce qu'il est dit, on l'a lu au verset 14. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin. Et moi, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. Et il y a des conséquences en toutes choses. Elles sont données, on l'a lu au dernier verset. Pour Juda, c'est l'annonce d'un jugement à venir. Et pour la famille fidèle des Récabites, on a donc cette promesse. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, Jonadab, fils de Récab, c'est la fin du verset, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens fidèles qui descendent de Récab? On ne les connaît pas, mais certainement, parce que Dieu a dit qu'il n'en manquera jamais. Mais si Dieu dit jamais, c'est jamais. Même 2500 ans plus tard, nous ne les connaissons pas, mais Dieu les connaît. Et quel encouragement pour nous à demeurer fermes dans ce que le Seigneur nous prescrit dans sa parole. Dieu approuve cette fidélité et la bénédiction viendra en son temps. Quel encouragement, n'est-ce pas, pour chacun de nous. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils n'ont pas reçu de révélations particulières. Ils n'ont pas accompli d'exploits particuliers non plus. Mais simplement, ils avaient pris la résolution inébranlable de se tenir ferme sur ce qu'ils avaient compris, reçu, rester ferme à leur engagement. Et pour nous encourager, on peut se rappeler cette belle promesse du psaume 101, verset 6. « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche d'une voie intègre sera mon serviteur. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. » Un bel encouragement. Et pour finir, j'aimerais vous lire un commentaire d'un frère, Albert Rossier, qui a écrit sur ce passage il y a plus de 80 ans. Et là, déjà, ce qu'il disait à l'époque. Les commandements de Jonadab à ses fils sont précisément ce que nous devons mettre en pratique si nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu. Le témoignage qui a été confié à l'Assemblée dans les temps de la fin, ça c'était il y a plus de 80 ans, ce témoignage ne serait pas dans un état de ruine aussi complet que celui où nous le voyons aujourd'hui si nous avions marché dans la puissance de l'Esprit en nous abstenant de boire le vin des convoitises enivrantes du monde et en nous y établissant de façon permanente, ou comme on l'a exprimé, en nous installant dans ce monde, en n'attendant rien du monde, pas même une récolte, en ne cultivant pas ce qui tôt ou tard amènera la ruine de notre séparation, et enfin en réalisant que nous ne sommes que des pèlerins et voyageurs, des forains étrangers. Que dirons-nous de ces choses? Nous nous humilierons sous la puissante main de Dieu, nous le rechercherons par la prière et la supplication dans le jeûne, nous répéterons avec Daniel, ce n'est pas à cause de nos justices que nous nous présentons devant toi, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis, ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu. Et puis, écoutons, dans sa merveilleuse patience, dans sa miséricorde infinie, le Seigneur dit à Philadelphie, tu as gardé ma parole. Combien nous devrions avoir honte en entendant une telle affirmation? Est-ce qu'elle ne nous redonnera pas le désir ardent de la démentir? Est-ce que nous ne dirons pas du fond du cœur, parle Seigneur, ton serviteur écoute, pour pouvoir dire ensuite comme les récabites, nous avons écouté, nous avons fait tout selon tout ce que a commandé Jonadab, notre père. Alors le Seigneur nous donne un exemple de marche, de fidélité. La suite nous appartient.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions de cette matinée. Nous te remercions d'avoir entendu le sacrifice que tu as fait sur la croix, Seigneur Jésus, et ce que tu nous as donné par notre foi. Pas notre simple foi, mais notre foi profonde. Seigneur, approfondis encore notre foi. Tu nous as rappelé aussi que tu nous demandes d'observer ta parole. Ta parole ne sont pas des commandements pour se mettre sous une obéissance, mais elles sont ton amour pour nous. Seigneur, après ce que nous avons entendu, cette exhortation permet que nous soyons fidèles, complètement fidèles à ta parole par la grâce du Saint-Esprit, car bientôt tu reviendras. Et tu nous dis aussi dans ta parole, dans les lettres où cette Église d'Asie, qu'il nous faut être prêts pour te recevoir, parce que tu viens bientôt. Que tu puisses nous trouver avoir été fidèles toute notre vie à ce que tu nous enseignes, personnellement et dans ton Église. Amen.